Oui, alors là, il y a toute une histoire. Il y a des médecins pionniers, il y a un siècle et demi, qui l'ont montré. Ils voyaient des personnes, alors très très en surpoids, qui mettaient à la diète et ils se rendaient compte que le patient n'urinait plus de sucre, donc le diabète avait disparu. Ensuite, on a réussi à soigner, à traiter les diabétiques de type 1, donc avec de l'insuline, et on a pu commencer à avoir des traitements qui fonctionnaient aussi pour les diabétiques de type 2. Et puis, on a découvert petit à petit, au cours du XXe siècle, des choses comme la résistance à l'insuline. Donc, on s'est rendu compte, c'était une maladie pas seulement du surpoids, mais on s'est rendu compte que ce diabète de type 2, c'était principalement une maladie musculaire, finalement, une maladie, alors pas seulement du tissu gras, pas seulement du fait d'avoir, je sais pas, des kilos en trop, comme vous dites, mais aussi une maladie des muscles qui sont sous-utilisés finalement. Le muscle, c'est la moitié de notre poids, hein. C'est notre premier organe, si vous voulez, en quantité, en masse. C'est aussi un de nos plus importants organes endocriniens, c'est-à-dire c'est un des premiers organes qui produit des hormones. Donc, il communique avec le reste du corps, notamment avec le pancréas. Donc, voilà, au cours du XXe siècle, on s'est rendu compte que ce diabète, c'était une maladie de la complexité qui touchait plusieurs organes et qui dépendait en partie de nos comportements. Et c'est vrai que si on perd du poids, si on se remet en condition physique, si on change notre nutrition, eh bien, ce diabète recule. Et ça, c'est connu depuis pas mal de temps. Alors, il y a eu quelque chose de très spectaculaire il y a quelques dizaines d'années, c'est les opérations de bypass gastrique, c'est-à-dire de restreindre vraiment énormément l'estomac et une partie des intestins pour aider les patients très très obèses et qui n'arrivent pas à perdre du poids par d'autres moyens, à perdre beaucoup de poids, et ces patients perdent des dizaines de kilos en une année. Ça a des conséquences, c'est une opération très très importante et marquante et pas anodine du tout, mais une des constatations des chirurgiens qui ont fait ça, des chercheurs, des médecins, des cliniciens qui ont vu ces patients après, c'est qu'il y avait une grande grande proportion de rémission du diabète de type 2.
Donc ça veut dire que ceux qui nous écoutent et qui aujourd'hui doivent injecter de l'insuline une ou plusieurs fois par jour, qui doivent surveiller leur glycémie de façon très très attentive, ces personnes, on peut leur dire que un changement radical de mode de vie peut avoir des conséquences plus que favorables?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question et c'est très très intéressant. Alors, d'abord, ce qu'il faut réaliser, c'est que les patients diabétiques de type 2 qui sont en traitement à l'insuline, ça représente quelque chose comme 15 à 20% des patients diabétiques de type 2. C'est-à-dire que la plupart des patients diabétiques de type 2 ont encore un pancréas qui fonctionne et donc n'ont pas forcément besoin de s'injecter de l'insuline. Ils ont en fait des médicaments oraux, des pilules, des comprimés. Souvent, quand le pancréas est vraiment trop abîmé, typiquement après des fois 10 ans de diabète, là le pancréas est vraiment apparemment détruit et on a plus de possibilité de produire de l'insuline. Donc là, le traitement à l'insuline s'impose et il est effectivement délicat, quasi impossible de pouvoir espérer en guérir. On peut améliorer énormément de choses, diminuer les risques, hein, pour le cœur, etc. Donc les changements sont de toute façon intéressants, mais on promet de toute façon jamais de guérison, mais on suggère qu'une guérison peut être possible, surtout dans les premières années de la maladie, et surtout s'il n'y a pas de besoin d'injecter l'insuline. Ça, c'est une chose. Et puis, quand vous avez dit des changements radicaux, ça peut faire peur. Il s'agit des fois de petits changements au quotidien et sur le long terme. Et c'est pas évident.
Par exemple,
ça veut dire qu'il va falloir peut-être mettre en place une toute petite activité physique et y trouver du plaisir pour que ça puisse durer des années. Il va peut-être falloir envisager de réussir à stabiliser son poids et peut-être même à le faire légèrement diminuer, tranquillement. Nous, quand on accompagne des personnes, si les personnes perdent 5, 10 kilos en une année, on trouve ça extraordinaire. Si c'est suivi dans la durée, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas modifier le métabolisme. Ça veut dire qu'on voit de toute façon des résultats positifs sur ces maladies, hypertension, diabète. En gros, toutes les personnes qui arrivent à améliorer leur alimentation, diminuer un peu leur poids et remettre en place une activité physique, regagner en condition physique, toutes voient leur métabolisme s'améliorer. Ça veut dire l'hypertension a tendance à reculer, le diabète a tendance à reculer. Alors, jusqu'à la guérison, on peut dire que c'est un horizon atteignable pour certains patients, peut-être pas atteignable pour d'autres. C'est cheminer vers cet horizon qui nous permet d'améliorer grandement son bien-être et sa santé et faire reculer ces maladies métaboliques.
Le diabète, est-ce que c'est une maladie particulière dans le sens où c'est une maladie culpabilisante en disant si t'es diabétique, c'est de ta faute, c'est toi qui n'as pas pris bien soin de ton corps, de ta santé?
Alors oui, dans une vision un peu de médecine paternaliste ou culpabilisante, etc., c'était le cas et c'est triste parce que ça enferme des patients, et pas que pour le diabète bien sûr, mais pour l'obésité, pour les addictions. Qui n'a pas entendu qu'on stigmatisait une personne alcoolique, une personne qui aurait fauté, etc. Bah, heureusement, la médecine change et on a eu des pionniers comme Jean-Philippe Assal à Genève qui a créé l'éducation thérapeutique dans laquelle j'ai la chance de travailler. Mais il y a d'autres approches hein, de médecine interdisciplinaire, de médecine globale, de médecine simplement de médecine de l'humain en fait, hein, qui accompagne, qui aide la personne à cheminer avec des fois avec des traumatismes de vie hein, qui ont mené à certaines maladies. Et je parle pas encore des conditions sociales hein, qui peuvent bien sûr être en lien avec ces pathologies. Donc je pense qu'on peut vraiment aider ces personnes-là quand on est très solide au niveau médical. Donc on a des équipes avec des médecins, des infirmières, des diététiciens, des psychologues, des art-thérapeutes extraordinaires pour aller du médical au psychologique, social, pédagogique. Voilà, c'est une approche vraiment, vraiment interdisciplinaire. Qu'on fait quand on parle d'éducation thérapeutique.
On l'a dit, le diabète de type 2, c'est une épidémie mondiale. Pour endiguer cette épidémie, c'est la recherche scientifique qui va faire des avancées, ou alors c'est l'éducation, la prévention qui pourront faire que cette épidémie n'en sera plus une dans quelques années?
D'abord, dans l'éducation, la prévention, etc., c'est aussi des sujets de recherche scientifique. C'est-à-dire que la recherche scientifique, c'est pas seulement la technique. La recherche scientifique, c'est aussi comment il est possible qu'un humain apprenne de ses émotions, se transforme, soit plus efficacement accompagné pour se sentir mieux, gagner en libre arbitre, poser des choix éclairés, choisir son alimentation ou son activité physique, etc., etc. Donc la recherche scientifique et l'éducation, la psychologie, etc., ça va des fois ensemble. Bien sûr, il y a eu des grandes avancées au niveau médicamenteuse et heureusement parce que ça permet d'éviter les complications du diabète. Évidemment, une des pistes, c'est de continuer à rechercher, à comprendre, aussi bien au niveau physiologique, médicaments, que psychologique et éducation. Et bien sûr, ensuite, ça ouvre à l'environnement, c'est-à-dire, voilà, comment on est nourri aujourd'hui, comment on est incité à de moins en moins utiliser nos muscles. Là, il y a des choix de société, il y a des choses qui sont plus vastes que nos simples comportements individuels.
Docteur Laguerre, on vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous ce matin. Et puis, la discussion passionnante se poursuit demain soir au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Toutes les informations sur la page de notre émission, sur notre site internet tout à l'heure. Merci.
Merci infiniment.